Bonjour. C'est bien que Laurent Zimmermann ait parlé de la vie mode d'emploi juste avant moi, parce que merci, parfait. Parce que dans mon histoire de lecteur personnel, ces livres sont liés. La vie mode d'emploi, paru en 1978, Si una notte d'inverno un viaggiatore de Calvino, paru en Italie en 79. Traduit deux fois. Il y a une nouvelle traduction qui est due à Martin Rueff en folio, mais l'édition, la première édition est au Seuil en 81 ou 82 et traduite par Daniel Salnave et François Val. Dans mon panthéon de lecteurs, ils sont associés à un troisième livre que je cite parce qu'il est paru aussi en 79, c'est Mulligan's Two de Gilbert Sorrentino, donc romancier américain, traduit sous le titre Salmigondi chez Sampage par le regretté Bernard Hopfner, grand traducteur qui a disparu cette année malheureusement. Et donc ces trois livres pour moi sont le symbole d'une période, donc la fin des années 70, l'héritage du structuralisme, du nouveau roman, et en même temps avec une manière nouvelle, neuve, ce qu'a dit Laurent Zimmermann, c'est-à-dire reconsidérer à la fois l'idée du roman 19e siècle, mais sans abandonner pour autant le plaisir de lecture, les histoires. Et donc voilà, un jeu comme ça, très presque post-moderne, entre ce qu'est un roman, ce qu'il est censé être dans l'imaginaire des lecteurs, et puis comment un auteur peut inventer de nouvelles manières, de nouvelles façons de réengendrer la lecture comme ça. Alors, si par une nuit d'hiver un voyageur... Je l'ai pas relu. Alors, je remplace quelqu'un au dernier moment et je l'ai pas relu avant d'en parler. Je l'ai lu donc il y a maintenant peut-être, je sais pas moi, 15-20 ans. Et je dois dire que le choc de ce livre est un choc que je n'ai ressenti qu'une seule fois et que je ne ressentirai qu'une seule fois, parce que ce livre propose. On parle souvent de les universitaires parlent de pacte, le pacte de lecture. Il propose un pacte que je n'ai jamais retrouvé ailleurs. Je m'explique. Ce livre est l'histoire d'un lecteur, qui est vous, puisqu'en fait, le début du roman est celui-ci. Tu vas commencer, donc je devrais dire qui est toi, tu vas commencer le nouveau roman d'Italo Calvino, Si par une nuit d'hiver en voyageur. Détends-toi, concentre-toi, écarte de toi toute autre pensée, laisse le monde qui t'entoure s'estomper dans le vague. La porte, il vaut mieux la fermer. De l'autre côté... La télévision est toujours allumée. Dis-le tout de suite aux autres. Non, je ne veux pas regarder la télévision. Parle plus fort s'ils ne t'entendent pas. Je lis. Je ne veux pas être dérangé. Avec tout ce chahut, c'est le cas, ils ne t'ont peut-être pas entendu. Dis-le plus fort. Crie, je commence le nouveau roman d'Italo Calvino. Ou si tu préfères, ne dis rien. Espérons qu'ils te laisseront en paix. Et donc ce lecteur, qui est toi, se met à lire on a le chapitre 1 qui est comme ça... Qui expose la situation du lecteur qui s'apprête à lire, et on a aussitôt après le début d'un roman qui s'appelle « Si par une nuit d'hiver en voyageur ». Et à un moment donné, peut-être est-ce que c'est un chapitre entier du roman ou pas, en tout cas la lecture de ce roman s'interrompt, et on a le chapitre 2. Et le chapitre 2 nous dit qu'il y a une coquille d'impression, une erreur d'imprimerie dans l'exemplaire que tient le lecteur, et que, en fait, les pages ont été imprimées plusieurs fois. Donc, en fait, il n'a que ce qu'on vient de lire nous-mêmes. Donc, frustration du lecteur, qui est nous. Donc, nous sommes frustrés. Et il va partir donc à la recherche de Si par une nuit d'hiver en voyageur. Et il va tomber sur un autre livre qui est censé être Si par une nuit d'hiver en voyageur. Et en fait, il va s'apercevoir que non, il ne s'appelle pas Si par une nuit d'hiver en voyageur, ça s'appelle En s'éloignant de Malbork. Et on va lire un deuxième début de roman comme ça. Et là aussi, frustration. Je ne me souviens plus. Il le perd, il se le fait voler. En fait, en tout cas... Situation différente, le roman s'arrête. Nouvelle frustration. Et là, le choc dont je parlais est le suivant, c'est que la frustration du lecteur, nous la ressentons aussi, puisque le lecteur, c'est nous, et que on comprend que ça va être le cas. Si on feuillette toujours des livres, on les lit pas à l'aveugle, on regarde la table des matières, on s'aperçoit qu'il y a une alternance de ce que Calvino appelle les chapitres, chapitre 1, à 11, avec une petite coda, chapitre 12, mais 11 chapitres, intitulés chapitres 1, 2, 3, 4, 5, et entre ces chapitres, en sandwich, des titres de romans. Et donc on comprend bien qu'on va avoir affaire à des débuts de romans comme ça. Et là, le tour de force absolument monumental de Calvino, c'est bien de dire... ah oui, j'ai pas lancé le truc, c'était sympa, mais...
C'est pas grave,
Le tour de force monumental de Calvino, c'est très performatif. C'est une fois qu'on a compris qu'on va pas plonger dans l'histoire davantage, alors que l'histoire est très prenante. Je vous lirai la fin de la première histoire. Ce sont des débuts de roman. On est pris totalement dans le livre et on ressent cette frustration. On le ressent une deuxième fois. Quand le troisième roman commence, on sait bien qu'on va être... Et donc on se dit, ben là, je ne vais pas me faire avoir, Italo, cette fois-ci, tu ne vas pas m'embarquer. Puisque de toute façon, tu n'as pas écrit plus que ce que je vais lire. Il n'y a pas besoin de rentrer dedans. C'est le jeu pourrait être totalement... pour le coup, postmoderne, on s'éloignerait de tout ça et on ne lirait que les pérégrinations de ces lecteurs qui rencontrent une lectrice et qui, comme ça, va aller à la recherche de ce livre premier qu'il ne trouve jamais. Eh bien, malgré tout, même en sachant ça, on est happé complètement. Et c'est comme si Calvino déterminait, parce que ces débuts de roman ont des longueurs variables. Hein, le premier a une douzaine de pages, le second 8 pages, etc. Donc c'est en gros une dizaine de pages, mais pas un nombre fixe. Mais c'est comme s'il déterminait dans son écriture le moment où, en effet, on va être totalement frustré. Donc on a beau le savoir, je peux vous le dire, ça n'enlève rien au plaisir de lecture. C'est à ce pacte très singulier qui est que... On est happé par le comme le disait Laurent sur le bonheur de raconter des histoires. Là, on est pris dans le bonheur de lire un début de roman où il explore différents genres volontairement. Il y a dix débuts de romans qui sont très variés, où on retrouve toujours l'écriture de Calvino, mais avec des approches thématiques et de genres très différentes. Et donc, on est complètement happé et frustré. Et donc, on est totalement le lecteur, on est le personnage du roman. Ce lecteur qui n'a pas d'autre nom que le lecteur. Je vais vous lire, je n'arriverai pas à vous frustrer totalement, puisqu'il faudrait que j'arrive à lire le début de roman entier, on n'a pas le temps, mais je lirai la fin du début, ce qui est un peu paradoxal. Juste pour, comme Laurent Zimmermann a dit, qu'il n'a pas évoqué les contraintes très nombreuses de la vie mode d'emploi, j'évoquerai très succinctement ce roman de Calvino. Tous les romans de Calvino ne sont pas écrit dans une logique oulipienne. Il est rentré à l'Oulipo en 1974. Il était ami de Queneau, de Pérec. Il vivait à Paris à l'époque. Mais il a commencé à écrire donc des romans assez oulipiens. On a ses premiers romans que vous connaissez, Le Baron Perché, Le Vicomte Pourfendu, etc., qui font partie des romans post-Seconde Guerre mondiale. Il était résistant. Il y a des romans d'ailleurs qui parlent de la Seconde Guerre mondiale. Et puis ensuite, des romans comme ça, des histoires. Mais il s'est mis, quand il est entré à l'Oulipo, à écrire des romans, on va dire, oulipiens. On a le Château des Destins Croisés, qui fonctionne sur les règles du tarot. Enfin, en tout cas, il utilise les lames d'un jeu de tarot pour concevoir des histoires, donc de manière un petit peu combinatoire. Il y a un livre qui est merveilleux aussi, qui s'appelle Les Villes Invisibles, et qui est une série de descriptions de villes, Marco Polo racontant à Gengis Khan les villes qu'il a visitées. On part dans l'histoire très ancienne, on arrive dans un futur très lointain, donc on est complètement dans un jeu d'invention romanesque. Et son chef-d'œuvre oulipien, c'est Si par une nuit d'hiver un voyageur. Dans la bibliothèque oulipienne, qui est une série de petits fascicules que nous publions depuis 1974, justement, qui a commencé avec Ulcération de Pérec, après la publication du livre, Calvino a publié donc dans la bibliothèque oulipienne « Comment j'ai écrit un de mes livres », qui est une référence à « Comment j'ai écrit certains de mes livres » de Raymond Roussel. Un autre membre de l'Oulipo, Marcel Benabou, le secrétaire provisoirement définitif, a écrit son livre le plus célèbre « Et pourquoi je n'ai écrit aucun de mes livres ». Donc, il existe d'autres variations de ce titre de Roussel. Donc « Comment j'ai écrit un de mes livres ». Calvino présente, je ne l'ai pas apporté parce que je ne l'ai pas en fascicule détaché, je l'ai qu'en gros volume, dans le volume 2 de la bibliothèque oulipienne. Il présente la structure, non pas des débuts de romans, mais des chapitres numérotés de 1 à 12. Et il le présente, et on voit que c'est fait à partir de carrés de grimaces. Enfin, il y a un carré avec quatre coins, il y a le lecteur, il y a le livre, il y a le lecteur dans le livre, et il y a le livre dans le livre. Et donc, comme ça, il crée des systèmes de relations. Donc, c'est lié à la sémiotique, à des choses comme ça. C'est des choses qui étaient très en vogue dans les années 70, justement. Et donc, il se sert de ça. Mais une fois que j'ai dit ça, quand on lit les chapitres même qui narrent les aventures du lecteur et de la lectrice, on n'a pas besoin d'avoir cet échafaudage pour comprendre pour avoir le plaisir de lecture. Donc, je vais terminer en lisant juste pour vous dire comment ça finit. Donc on a un, Si par une nuit d'hiver un voyageur, c'est un, donc ce, le livre qui est dans le livre, le premier début de roman, est un roman très, presque d'espionnage. En tout cas, il y a une grande tension policière. Il nous dit, le roman commence dans une gare de chemin de fer, une locomotive souffle, un sifflement de piston couvre l'ouverture du chapitre. Un nuage de fumée cache en partie le premier alinéa. Donc déjà, il y a un jeu aussi de distance. Mais si je lis la fin, bon, il y a un personnage qui est pris dans des aventures. C'est assez palpitant. En fait, voilà, c'est totalement palpitant. Et je vous lis juste la fin, là. C'est « Il s'approche de moi, abaisse le regard sur ma valise, sur mon journal, glisse entre ses dents, Zénon Délé, et se dirige vers le distributeur de cigarettes. On m'a donné à la police. C'est un policier qui travaille pour notre organisation. Je m'approche du distributeur comme pour retirer moi aussi des cigarettes. Lui, on a tué Yann, va-t'en. Et la valise, emporte-la. Nous ne voulons pas le savoir. Tu prendras le rapide de 11h. Mais il ne s'arrête pas ici. Il s'arrêtera sur le quai 6, à la hauteur des marchandises. Tu as 3 minutes. Mais file, sinon je devrais t'arrêter. L'organisation est puissante. Elle commande à la police au chemin de fer. Je traverse les voies par les passages successifs avec ma valise jusqu'au quai 6. Je marche le long du quai. La gare de marchandises est au fond avec son passage à niveau. Au-delà, l'obscurité et le brouillard. Le commissaire est sur le pas de la porte vitrée. Il me surveille du regard. Le rapide arrive à toute allure, ralentit, s'arrête, me cache à la vue du commissaire, repart. On vient de lire le début d'un roman absolument palpitant, et quand ça s'arrête à repart, d'ailleurs on ne sait pas s'il est monté ou pas, hein, vous avez remarqué, le, et on ne saura jamais. Et le lecteur passera son temps à trouver ça, et il va y avoir comme ça 9 autres débuts de roman où on ne saura jamais ce qui se passe ensuite. Et il n'empêche que je ne me rappelle plus des histoires, mais la seule chose dont je me rappelle, c'est que c'est une expérience de lecture unique. Voilà, je terminerai là-dessus. Merci.